Bonsoir à tous. Donc nous sommes, merci d'être venus en tout cas ce soir accueillir avec nous deux personnes qui viennent nous parler du même texte, puisque donc il y a l'auteur, Sor Chalandon, et le lecteur, Féodor Atkin. Je vais me permettre de vous présenter assez brièvement, parce que vous avez tous les deux des carrières assez, assez longues. Tout d'abord l'auteur, donc Sor Chalandon. Donc vous avez été journaliste pendant plus de 30 ans Libération.
Oui.
À Libération.
Oui, absolument. Oui.
Et vous êtes toujours journaliste au Canard Enchaîné. Et vous êtes également donc, l'auteur de 7 romans. Le dernier donc, était la Profession du Père, pour lequel vous étiez venu nous voir en septembre, je crois. Vous êtes, c'est la troisième fois que vous venez nous voir, et deux fois pour le quatrième mur.
Oui, c'est pour ça que je vais. C'est pour ça que ce sera plutôt Féodor qui va.
On va essayer voilà, de parler, de parler tous les trois à la fois, enfin, surtout de la lecture et d'Audiolib. Et donc, Féodor Atkin, le lecteur du quatrième mur. Je suis désolé parce que je ne vais pas pouvoir dire tout ce que vous avez fait dans votre vie.
Mais c'est pas dramatique, et puis c'est pas vraiment forcément nécessaire. Je veux dire, voilà.
On va quand même peut-être préciser que vous êtes acteur, majoritairement. Vous avez joué dans des films de Woody Allen, de Paul Lelouch, de Pedro Almodovar, pour ne citer que cela. Vous avez également joué au théâtre.
Beaucoup, oui.
Des pièces, beaucoup de classiques, j'ai vu, de Marivaux, de Shakespeare, de Molière.
Oui, bien sûr, oui.
Vous faites aussi du doublage, c'est peut-être pour ça que sa voix ne vous est pas inconnue. Dans les plus, comment dire, tendances, vous avez doublé la voix de Hugh Laurie du Dr House.
Ah oui, oui, oui.
Oui. Et plus récemment de Mike de Breaking Bad.
De Breaking Bad.
Et maintenant de Better Call Saul.
Better Call Saul, voilà. Mm.
Et donc vous avez lu aussi.
Enfin, excusez-moi, mais pour mes enfants, c'est Jafar quand même.
Ah oui, oui, oui.
Ah, c'était vous, Jafar.
Oui. Ah oui, c'était Jafar.
Oui, oui,
et puis dans dans le Seigneur des Anneaux aussi,
c'est le roi des elfes.
Le merveilleux roi des elfes dont la voix nous dit qu'il n'a pas peur.
Voilà.
Donc vous avez aussi également lu plusieurs textes qui viennent donc de chez Audiolib.
Mais grâce à Audiolib.
Grâce à Audiolib. Vous avez lu... Tout est sous contrôle de Hugh Laurie, parce que c'était incontournable.
Bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement.
Vous avez lu Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Le quatrième mur, donc, de Sor Chalandon. Le vieux qui ne lisait pas des romans... le vieux qui lisait des romans d'amour de Sepúlveda.
Sepúlveda. Ouais.
Faillir être flingué de Minard.
C'est Minard.
Et je crois que vous êtes là, va sortir bientôt un texte de Jonasson, le dernier qui a été...
Oui, oui, de Jonasson, l'assassin qui rêvait...
Qui rêvait d'avoir une place au paradis.
Une place au paradis, voilà.
Ouais, qui va bientôt sortir. Voilà pour les brèves présentations.
Bien.
Je me permets de faire une courte introduction, puisque je ne sais pas si vous étiez là lors de la conférence qu'on avait faite sur le quatrième mur. Donc l'idée de ce soir n'est pas de refaire la même chose. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à retrouver le podcast, à le lire déjà. À le lire et peut-être après d'écouter la conférence donc, que vous retrouverez en podcast sur le site de Mola. Après, s'il existe encore des personnes qui n'auraient pas lu le livre ici,
ou on va peut-être... Ou qui n'auraient pas entendu lire.
Ou pas entendu lire, tout à fait. On va peut-être... en parler un peu, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Georges, qui va essayer d'accomplir les dernières volontés d'un mourant, à savoir d'aller jouer, enfin de faire jouer, enfin de monter la pièce d'Antigone Danouille au Liban pendant la guerre. Voilà, comment en parler brièvement, après peut-être que Sorche peut... nous dire, parce que donc il a ce livre est sorti il y a quelques années maintenant.
Je dois dire que si je l'écrivais aujourd'hui, j'arrêterais d'écrire.
C'est vrai.
Oui.
Pourquoi ?
J'arrêterais parce que je ne voudrais pas qu'on dise ah oui, parce que ce qui se passe en ce moment, donc il parle de ça. J'en ai parlé parce qu'on n'en parlait pas. L'ouverture du livre, c'est un char syrien Quand j'écrivais le mot char syrien, j'avais l'impression de parler d'un temps qui n'était plus de notre temps, qui était d'une autre époque. Ouais. Et maintenant, on n'entend plus que ça, char syrien, bombe, etc. Et donc, je n'aurais pas. J'ai écrit un livre en me disant, mais les gens vont se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il écrit sur cette violence-là, sans penser qu'elle viendrait cogner à nos portes. Donc, moi, ce que je voulais dire juste, c'est que il y a de quoi parle un livre et les raisons pour lesquelles on a écrit un livre. Et moi, en fait, j'étais correspondant de guerre pendant plus de 20 ans. Et donc, je l'ai déjà expliqué ici, mais ce n'est pas grave, puisque c'est l'introduction. Et moi, je suis tombé amoureux de la guerre. C'est-à-dire que je ne comprenais plus pourquoi vivre en paix. Je ne suis pas tombé amoureux des morts. Je ne suis pas tombé amoureux de la violence. Je suis tombé amoureux de ces lieux où un enfant ne pleure pas devant un frigo parce qu'il n'y a plus de coca, mais parce qu'avec sa mère, il va chercher de l'eau sous les balles. Et je me sentais plus proche d'une mère qui va aller chercher de l'eau sous les balles que ma fille, qui avait à l'époque 3 ou 4 ans, et qui pleurait parce qu'il n'y avait plus de yaourt. Je ne supportais plus la paix telle qu'elle était. C'est-à-dire que c'est pas que je me sentais vivre, je me sentais une obligation de journaliste et d'homme de rester près des gens qui souffraient le plus. Et donc j'ai écrit, je suis devenu fou, enfin pas fou, mais je fonctionnais. Mais je suis devenu, la barbarie de la guerre, elle est entrée en moi et elle m'a abîmé. Et j'ai écrit ce livre, le personnage s'appelle Georges, il est metteur en scène de théâtre, Georges c'est mon deuxième prénom. Et en fait Georges c'est ce que j'aurais pu devenir si j'avais continué. Georges, c'est ce que j'aurais. En fait, j'ai tué Georges. C'est pas un polar, donc si même ceux qui l'ont pas lu, je peux vous le dire, Georges meurt à la fin du livre, parce que je voulais qu'il meure à la fin du livre. Parce qu'ici, il n'y a pas de place pour lui et moi. Il n'y a pas de place pour Georges et Sorge. Donc ce livre-là m'a servi, moi, à faire mourir un fantôme, un barbare, qui m'avait accompagné, qui était revenu avec moi, qui tournait autour de moi. Et j'ai écrit ce livre-là pour. En fait, Georges, c'est moi de dos qui continuerai à la guerre. Et un jour, moi, j'ai décidé de rentrer parce que j'ai abîmé ma famille, j'ai abîmé mon enfant. Parce que lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on rentre de guerre, on laisse plein de morceaux de soi en guerre et on vient avec cette saloperie dans son ventre. Et donc, j'ai abîmé tout ça, j'ai abîmé mes amis. Et il a fallu que je me reconstruise. Et pour me construire, vraiment, totalement, en paix, il a fallu que je tue Georges. Donc ce livre, c'est un livre sur Antigone, c'est un livre sur la beauté du théâtre, c'est un livre sur une tentative de faire, non pas de faire la paix, on ne fait pas la paix avec une pièce de théâtre, mais d'imposer une trêve à des combattants. Ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et le secret, l'autre secret de l'écriture de ce livre, c'est que je voulais tuer le barbare qui était en moi, et je l'ai tué. Voilà.
Merci. Et vous, donc, Féodore, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je vous la reposer maintenant.
Oui.
L'audiolibre est sorti, l'audiolibre Quatrième Mur est sorti il y a 2 ans. Mm-hmm. Quels souvenirs conservez-vous de cette lecture?
On ne sort pas indemne de la lecture du Quatrième Mur. En ce qui me concerne, puisque je ne peux parler que de moi, donc c'est totalement subjectif, la façon dont ça m'a bouleversé et ça m'a touché est à plusieurs niveaux. Là, je passerai sur la qualité de l'écriture parce que c'est un phénomène évident. Mais le fait que soient mêlés ces éléments dramatiques, profondément dramatiques, non seulement l'élément guerrier qui est épouvantable en soi, incompréhensible pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, et c'est mon cas, qu'il y ait cet élément-là, que le théâtre fasse partie intégrante de la mécanique de cette écriture et de la recherche de Georges qui va tenter de monter cette Antigone dans un théâtre de guerre, puisque c'est quand même très étonnant, quand on parle de la guerre, on parle toujours d'un théâtre de guerre. Comme si la guerre était en soi une représentation de la bêtise et du malaise humain. Donc ces deux éléments-là, plus bien. bien évidemment d'autres facteurs qui se trouvent à l'intérieur du livre, cette tentative désespérée comme ça de se faire se rejoindre à un endroit lumineux, des gens qui, par leur naissance et par leur éducation, ne peuvent pas se rencontrer. Et cette rencontre s'effectue, elle est avortée, bon, enfin, je veux dire, vous lirez ou vous écouterez. Et donc, je disais en préambule que on ne sort pas indemne de cette histoire-là, et ce quatrième mur est gravé en moi comme très peu de romans, très très peu d'écrits, sans parler de romans, très très peu d'écrits que j'ai pu lire dans mon existence depuis quelques années, disons. Je ne veux pas faire la moindre comparaison avec d'autres auteurs, je veux simplement dire que si Dostoïevski, Giono, Joseph Roth, Marcel Schwab n'avaient pas existé, je considérerais que Sorge Chalandon est au pinacle, voilà.
Waouh.
Cet homme est à jeun.
Je t'emmerde.
Cet homme est à jeun, il n'a bu que de l'eau.
Alors, vous voulez que je vous en machine quelques... D'accord,
oui,
ok. Alors, j'ai fait un choix qui m'a été dicté. Donc,
pas par moi.
Je
c'est,
sais.
C'est important, mais c'est important.
Il y a six petits modules qui donnent une idée de la continuité des choses. Je suis revenu de la crêperie avec une preuve de l'attaque. Une veste déchirée, avec une croix celtique dorée épinglée au revers. Je l'ai tendue à Sam. Il ne l'a pas prise. « Et quoi ? » m'a-t-il demandé. « La peur change de camp, » j'ai répondu. « La violence est une faiblesse, » m'a répondu Sam. J'ai eu un geste de trop, un haussement d'épaule. Je lui ai demandé ce qu'il aurait fait à l'école polytechnique s'il avait eu une arme, hein, et s'il avait pu défendre Diomedes Komnenos. Il ne l'aurait pas fait? Il l'aurait laissé abattre sans réagir? Sam était en train de lire un texte lorsqu'il m'a fait entrer. Son calme me rendait fou. Souvent, il éteignait l'électricité et allumait des bougies. Il écoutait à l'infini quelques notes du Requiem de Maurice Duruflé. « Pie Gesù », le même motet en boucle lorsque l'orgue et l'orchestre s'inclinent pour laisser place à la voix. Depuis le mois de mai, m'avait raconté Sam, le compositeur était cloîtré chez lui après avoir été grièvement blessé dans un accident de voiture. Mon ami disait que ce musicien n'écrirait plus rien, jamais, que cette œuvre liturgique était le legs de Duruflé à Akunis. Pie Gesù le bouleversait. Il voulait une mezzo-soprane dans sa pièce. Il rêvait de cette pureté pour l'adieu d'Antigone. Antigone, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et puis l'inspiration de la cantatrice, le temps suspendu, ses premières notes, le violoncelle au loin, léger comme le vent. Réponds, Sam, s'il te plaît, si tu avais pu sauver Diomedes. Il m'a regardé, s'est levé lourdement, respiration sifflante. Il a rapporté un miroir. Il a fouillé sa poche arrière. Il a sorti une kippa noire, piquée d'un fil doré, lustrée par les joies et les deuils. Celle de son père, parti à la mort tête nue. Il l'a mise sur sa tête. Il est venu vers moi, main sur mon épaule, tenant la glace face à nous. Samuel Akunis et moi, deux amis sur la photo. « Dis-moi ce que tu vois, Georges. » Je ne me suis pas dégagé, mais je n'aimais pas ce jeu. Il était au théâtre, il parlait comme on récite, ennemi du mot en trop. Je me demandais comment il avait pu faire cortège à notre combat depuis 2 ans. Sans critiquer vraiment, sans que rien ne perce, ni colère, ni moquerie. En fait, qui était-il ? Un metteur en scène grec qui avait joué Uburois sous la dictature et qui avait été maltraité pour soi, pour ça et quoi ? Rien de plus ? Non, rien. Il avait tendu l'autre joue. Il avait parlé théâtre. Il avait laissé champ libre au colonel. Il était monté sur une grille, il était tombé, il avait été blessé à la jambe. Un accident domestique. Et puis, il avait fui. Il était venu se réfugier en France. Il avait été acclamé par les démocrates. Il avait été invité partout. Pour dénoncer la dictature, il avait parlé théâtre. Il avait été porté en triomphe au milieu des drapeaux rouges, noirs, vietnamiens, chinois, chiliens, palestiniens, basques. Il avait levé les bras, il avait souri, il avait parlé théâtre. Au lieu de lever une armée pour sauver un gamin de 16 ans, il avait dérobé son nom pour en faire une compagnie. Il avait pris nos luttes pour en faire des répliques, il avait scénarisé notre combat. Il était ailleurs, distant, jamais sur scène. Il s'était promené en coulisses, épiant ce que nous étions. Jamais je n'avais autant aimé un homme. De ma vie, jamais. Je m'en voulais de ne pas comprendre ces silences. Dis-moi, tu vois quoi ? Tu vois qui, Georges ? Sa kippa me gênait. Elle le montrait ailleurs, différent, loin de moi. Je vais te dire ce que je vois, Georges. Il s'est dégagé, me tendant la glace. Je vois un homme qui refuse l'injustice et l'indifférence. Un gars bien. Il observait mon reflet. Je vois un pion de collège qui a eu la chance de ne pas être tué il y a 1 an dans le jardin du Luxembourg, et pas condamné non plus, qui a retrouvé son travail grâce à la mobilisation de ses camarades et à la compréhension d'un ministère qui ne lui devait rien. Sam a ajusté sa kippa. Mais il a eu de la chance, le gars, bien, il le sait. Il est en sursis, partout. Au moindre faux pas, la justice l'abattra. Elle adore les proies faciles. Il s'est déplacé, me laissant seul dans le cadre. Aurore t'aime. Le théâtre aussi. Il a posé le miroir. Ce que nous vivons est difficile, mais ce n'est pas la guerre. Vous n'êtes pas des résistants et Giscard n'est pas Pétain. Il s'est servi un verre d'ouzo. Je vais te choquer, mais je ne crois pas non plus que tes petits copains d'Assas soient des nazis ou des fascistes. Ce sont des mots pour rien. Ce sont des démocrates, peut-être ? Des racistes, dangereux. C'est ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas Alois Brunner. Je me souvenais. Il est allé à sa bibliothèque. À l'intérieur d'un livre, il y avait une photo ancienne, piquetée de jaune. Un homme grave ou sévère. Il avait quelque chose de Sam. Dans le visage anguleux, les yeux fiévreux, la bouche close. Il avait les joues creusées, l'âme en colère. L'homme portait un manteau et une écharpe lourde passé dans son revers. Il était de profil, cheveux ramenés en arrière, debout contre un mur gris. « Je te présente Joseph Bokchov », a souri Samuel Akounis. Ça m'est revenu. Bien sûr, l'un des visages de l'affiche rouge qui hantait notre combat, compagnon de Manouchian. Fusillé avec lui le 21 février 1944 au Mont Valérien, juif hongrois, chef dérailleur, 20 attentats, avaient écrit les nazis sous sa photo. Il avait quitté son village natal à 23 ans, pas pour fuir, pour rejoindre la République espagnole. Il avait été défait avec elle, interné en France, déporté en Allemagne, évadé, et puis il avait rejoint à Paris les FTP et lancé sa première grenade contre la gare de Belleville. Regarde, Georges. Regarde bien ce visage. Bokchov est au mur des fusillés. Le photographe est un ennemi. Il va tomber sous leurs balles. Regarde ses yeux, regarde le pli de sa bouche. Je les regardais. Joseph, Samuel et leur kippa pour deux. Il va mourir. Il est déjà mort. Il n'a plus d'espoir, plus d'avenir, plus aucun matin devant lui. Il va partir dans un monde vaincu, avec pour cohorte des millions de victimes et d'esclaves. Il ne sait pas, il ne saura jamais ce que sera demain. Il ne sait pas si son combat a été vain, si sa mort aura une valeur. Regarde-le, Georges. Il va mourir. Il ne peut plus rien. Mais il rêve encore de lacérer un soldat. Regarde comme il est calme, comme il est beau. Il ne leur promet rien d'autre que la mort. Il a rangé la photo dans le livre, un ouvrage consacré à la cuisine allemande. Sam n'était jamais là où on l'attendait. Puis il s'est placé devant le miroir à son tour. Tu sais ce que je vois là ? Ni un résistant, ni un héros, ni une légende, mais un juif de Salonique, devenu grec par l'exode, français de préférence et metteur en scène parce que, lorsque je n'ai plus d'idées, j'invente un personnage. C'est tout. Et ça me va. Et nous, Sam, Aurore, moi, les copains, nous sommes quoi pour toi ? Ceux qui ont mis fin à mon errance. Il a enlevé sa kippa, l'a posée sur ma tête en souriant à peine. Botchoff a gagné ta guerre, Georges. C'est lui qui l'a gagné. Le lendemain, j'ai repris ma place à la tête du lit. Sam dormait. J'ai attendu. Aurore a pleuré lorsqu'elle a appris qu'il était malade. Elle viendrait dans la semaine avec deux anciennes copines de Jussieu. Sam les appelait les pétroleuses. C'était de l'affection. Sur sa table de nuit, il avait posé l'Antigone, édité en 1945, qu'il m'avait montré des années plus tôt. Et aussi la kippa de son père. Il respirait mal. De son torse montaient des voix chuchotées, des plaintes mêlées à son souffle. J'ai pensé à l'enfer, à un tableau de Jérôme Bosch. À des insectes d'hommes plongés dans la fournaise, j'ai calé ma respiration sur la sienne. Quand il retenait son souffle, j'empêchais le mien. Je regardais battre son cœur sur l'écran du moniteur cardiaque, puis je fermais les yeux, je comptais les pulsations, je me suis endormi. Deux infirmières sont venues faire sa toilette. Il dormait toujours. J'ai effleuré ses doigts et je suis parti. Je suis revenu deux jours plus tard, Sam était réveillé, la nuque calée par deux oreillers. Il m'attendait. Antigone va être jouée à Beyrouth. J'ai hoché la tête. Je le savais. Sam avait trouvé ses acteurs et même quelques doublures. Il n'avait pas encore répété, mais tous s'étaient rencontrés une première fois dans un local appartenant à l'ambassade de Grèce. Antigone était palestinienne et sunnite. Émon, son fiancé, un druze du Chouf. Créon, roi de Thèbes et père d'Émon, un maronite de Guémaïsé. Les trois chiites avaient d'abord refusé de jouer les gardes, personnages qu'ils trouvaient insignifiants. Pour équilibrer, l'un d'eux est aussi devenu le page de Créon. L'autre avait accepté d'être le messager, au metteur en scène de se débrouiller. Une vieille chiite avait aussi été choisie pour la reine Eurydice, femme de Créon. La nourrice était une chaldéenne et Ismène, sœur d'Antigone, catholique arménienne. Le casting avait duré 2 ans. Tous ces jeunes avaient fait un peu de théâtre, sauf Eurydice, qui n'aurait qu'à tricoter pour les pauvres de Thèbes. Sam s'était d'abord présenté comme grec. Lui serait le cœur, voix essentielle dans le théâtre antique. Puis, il s'était avoué juif. Alors, il a fallu remplacer les chiites par 3 autres. Et aussi la catholique, qui n'avait pas supporté cette révélation. « Tu vas monter Antigone, Georges ?» Je me suis rapproché. « Pardon ?»« Non, c'est moi qui te demande pardon. » Je n'ai plus le temps ni la force. Il a fermé les yeux. Il était comme un très vieil homme. Le plus dur est fait. Tes personnages sont prêts. Ils t'attendent. Mes personnages ? Cette fois, c'est moi qui manquais d'air. Il chuchotait à peine, sa voix sonnait le métal. Il expliquait que chaque acteur avait appris son texte et qu'il suffisait de quelques répétitions. Il n'y aurait qu'une seule représentation en octobre. Il faudrait une salle neutre, ni dans l'ouest de Beyrouth, ni dans l'est, sur la ligne de démarcation. Une ancienne école, un entrepôt, n'importe quoi. Il voulait un lieu qui parle de guerre. Labouré de balles et d'éclats. Quatre murs, ou seulement trois. Pas de toit, peu lui importait. Il avait visité un cinéma délabré qui lui plaisait. Il imaginait les communautés entrer dans ce théâtre d'ombre par les deux côtés du front. Il les voyait avec des chaises pliantes, des coussins, des bouteilles d'eau, des pistaches, tous ensemble, rassemblés. Deux heures d'une soirée d'automne, avec les combattants crosse en l'air, le temps d'un acte. « Tu vois ?» m'a demandé Sam. « Non, mais lui voyait. » Il m'a décrit la scène de gravat, les trois portes peintes sur un mur grêlé, le visage des spectateurs, le cercle de lumière blanche, ses acteurs. Il est entré sur scène. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Il a levé le bras avec peine, désignant du doigt un coin de la pièce. « Tu les vois, Georges ?» Il avait ouvert les yeux, son regard revenait de la mort. « Tu les vois maintenant ?»« Oui, j'ai dit. » Je voyais Samuel Akounis qui luttait pour la vie, bras percés de tuyaux, peau couverte d'ecchymose brune. Il a fermé ses paupières une fois encore, laissant une larme s'échapper vers la tempe. J'ai hésité. J'ai voulu effacer ce sillon de chagrin, mais je ne l'ai pas fait. Pétrifié par sa demande, par les draps gris, par son cœur malheureux, serpentant l'écran vert, Samuel Akounis luttait pour la vie d'Antigone. Il combattait, couché, rassemblant ce qui lui restait de courage. « Prends mon carnet de travail sur la table de nuit, lis-le, complète-le, remplis-le, ce sera ta feuille de route. Prends aussi la pochette de plastique avec tout ce qu'il y a dedans. La prochaine fois, je te donnerai un disque et un cadeau pour l'actrice palestinienne. » J'ai regardé le carnet noir à tranches violettes, fermé par un élastique. Il était posé sur la kippa du père. Sam m'observait. Il semblait déçu par mon silence. « Dis oui, Georges. » « Oui. » Je n'ai pas regretté tout de suite. Ni dans le couloir de l'hôpital, ni dans la rue respirant l'hiver à pleine vie, ni dans les escaliers montant lentement vers la voie de ma fille. C'est face à Aurore que j'ai douté. Tu lui as promis quoi ? Louise avait 2 ans. Elle s'agrippait à ma jambe fragile. Elle ressemblait à sa mère, vraiment. Une Aurore minuscule. Les pommettes, les cheveux. Et un peu de moi dans le regard inquiet. « Réponds, Georges, tu lui as promis d'y aller ?» J'ai posé ma fille dans son petit fauteuil en osier tressé. C'était aussi celui de sa mère lorsqu'elle était enfant et celui de la mère de sa mère, la résistante de Douarnenez. Notre appartement était hanté de traces. « Tu as pensé à nous ?» Franchement, non. C'est à la porte de notre appartement que ma famille m'est apparue. À l'hôpital, seul Samuel existait, sa force, sa volonté. Lui et Antigone, son dernier combat. Nous étions en janvier 1982. Je me suis dit que 3 voyages suffiraient. Une prise de contact avec les acteurs, quelques répétitions, une générale et la représentation en octobre, comme Sam le désirait. 2 à 3 semaines chaque fois, étalées sur 9 mois. À l'éducation nationale, je n'étais plus titulaire de rien. Je pouvais me débrouiller avec mes congés de pion, jouer sur mes formations, jongler avec les jours et les semaines. Aurore a soulevé Louise. C'était l'heure du repas. Je l'ai suivie à la cuisine. « Laisse, je m'en charge. » Elle m'a pris des mains le bavoir, l'assiette colorée. Elle ne voulait pas de ce cérémonial tranquille pour champ de bataille. Alors je suis sorti de la pièce. Vous avez bien manigancé votre cou, hein? La voix de ma femme de l'autre côté de l'appartement. Quel coup? C'était ça les photos d'identité pour Sam. Je suis retourné à la cuisine. Quelle photo? Aurore chauffait un petit pot. Arrête, s'il te plaît. Les photos, c'était pour ça. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Avant le baptême de Louise, Aurore m'avait demandé 5 photos d'identité. C'était une surprise de Sam. Pour mon anniversaire, il voulait faire un collage avec son visage, le mien et celui des copains. Il l'avait dit à ma femme. J'étais allé au photomaton de la gare de l'Est, tordant la bouche sur l'une, louchant presque sur l'autre. Aurore avait ri. Sam les avait trouvées parfaites. Et le temps avait passé. Sam n'avait plus jamais reparlé du cadeau. Louise avait son air inquiet. Aurore m'a chassé d'un revers de main. Et puis, tu sais que tu n'as jamais quitté la France. Cette fois, elle avait raison. 2 voyages d'enfance dans la forêt noire, un souvenir de Suisse, une image de Turin. Tant que Franco vivait, j'ai refusé l'Espagne, et la Grèce aussi, à cause des colonels. Franco était mort, les colonels défaits. Je n'avais plus d'excuses, mais pas assez de temps ou d'envie. Voyager n'avait jamais été un plaisir. Faire mon sac, fermer la maison, partir, déserter l'habitude me glaçait. J'avais parcouru la France intimement, j'en connaissais les vergers, les montagnes, les côtes, les marchés, les frontières. Ça ne suffisait pas à Aurore, mais cela me convenait. Et il y a la guerre là-bas, tu te souviens? J'entendais la cuillère racler le pot de verre, le babil de Louise. Oui, la guerre, je me souvenais, c'était justement pour imposer son contraire que Sam avait choisi le Liban. Aurore savait tout cela. Elle savait aussi que ma décision était prise. Elle gaspillait 3 mots, mais n'espérait plus me convaincre. Aurore avait couché Louise. Elle avait peur pour elle, pour notre enfant. Elle parlait. Cette fois, il ne s'agissait pas de réciter 3 répliques de théâtre dans une maison des jeunes, mais de s'élever contre une guerre générale. C'était sublime. C'était impensable, impossible, grotesque. Aller dans un pays de morts avec un nez de clown, rassembler 10 peuples sans savoir qui est qui, retrancher un soldat dans chaque camp pour jouer à la paix, faire monter cette armée sur scène, la diriger comme on mène un ballet, demander à Créon, acteur chrétien, de condamner à mort Antigone, actrice palestinienne, proposer à un chiite d'être le page d'un maronite, tout cela n'avait aucun sens. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Ses remarques étaient justes. La guerre était folie. Sam disait que la paix devait l'être aussi. Il fallait justement proposer l'inconcevable, monter Antigone sur une ligne de feu, aller prendre les combattants de court. Ce serait tellement beau que les fusils se baisseraient. Pour une heure, a ricané Aurore. Elle était assise. Je me suis accroupi entre ses genoux. Une heure de paix. Et tu voudrais que nous rations ça? Elle avait retrouvé son sourire. Elle voulait des garanties, savoir qui m'attendrait à Beyrouth, qui me protégerait de cette ville et qui m'en délivrerait. Elle voulait une date de retour pour chaque voyage. Elle voulait connaître le nom des acteurs, tous. Elle voulait que tout soit prêt là-bas avant que je n'y arrive, que je n'ai plus aucun doute sur rien. Elle voulait qu'à la moindre incertitude, à la plus petite alerte, face à n'importe quel danger, je renonce. Jure. Je jure. Non, pas comme ça. Dans mes yeux. Jure sur ta fille. Je le jure. Sur notre fille. J'avais pris les mains d'Aurore, toujours à ses genoux. Elle m'a regardé, longtemps, soucieuse. Elle serrait mes doigts à faire mal. Louise a hurlé dans son sommeil. « Tu vas lui manquer », a dit ma femme. Et puis elle s'est levée pour aller voir sa fille. Iman a relevé son foulard blanc, laissant échapper une mèche fauve. Je l'observais sans bruit lorsqu'elle a capturé mon regard. J'ai détourné les yeux. Elle a souri de ma gêne. Nous étions une cinquantaine dans l'obscurité, assis sur des parpaings, entre deux immeubles délabrés. Un terrain vague transformé pour une heure en scène de théâtre. Pas d'estrade, un portique bricolé dans la poussière. La Palestinienne était assise de côté. Sa main cachait ses lèvres. Elle me traduisait le poète Mahmoud Darwish en attendant que le récitant finisse sa phrase pour la répéter. Inscrit. Je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine et j'ai 8 bambins. Les acteurs étaient des enfants. 5 étaient venus de Sabra, les autres vivaient à Chatila. Je suis leur institutrice, m'avait dit Iman. Je l'ai trouvée belle pour la deuxième fois. Trop belle pour ne pas y penser. Plus grande que je ne l'imaginais, plus jeune aussi. Elle portait une robe noire de fête à broderies rouges et vertes. Son accent était différent des autres, prononcé et chantant. Elle avait choisi ce texte en septembre et l'avait mis en scène avec les écoliers. Ils avaient répété plusieurs mois avant de le jouer. Dans la petite assemblée, il y avait des parents et des amis. Beaucoup avaient une lampe qu'ils braquaient sur la scène en projecteur de poche. Marwan était reparti. Nous étions convenus d'une heure de retour. À notre arrivée, la Palestinienne a regardé le druze sans lui tendre la main. Lui a effleuré son cœur du bout des doigts. Quand Iman ne traduisait pas, elle suivait les enfants du bout des lèvres. Mon grand-père était paysan, être sans valeur ni ascendance, ma maison une hutte de gardien. Elle habite juste en face de chez Pierre, le dentiste, m'avait dit Sam. À la porte de Chatila, il suffisait de demander son cabinet, puis de suivre les doigts tendus. J'avais prévenu de ma visite, Iman avait préparé un plateau de thé. Nous l'avons bu dehors, debout, dans la ruelle. Elle ne m'a pas fait entrer chez elle. Une maison basse, fermée par des barreaux. Tout était fatigué. Un toit de tôle ondulée renforcé de bâches en plastique, deux vitres en carton. Les murs avaient la gale. Je n'ai pas vu sa mère. Son père n'est pas sorti. Je l'ai aperçu dans l'ombre de la pièce. Deux fillettes riaient sur le seuil. Yassine, s'est présenté un jeune homme, arrivé derrière moi. C'était le Palestinien, aux lunettes rondes, qui riait tout à l'heure au barrage, mon jeu de passe à la main. Le grand frère d'Iman avait un visage très doux et le regard tranquille. « Alors, c'était vous le français du théâtre ?»« Oui, j'étais ce français-là. » Il m'a regardé, il parlait un mauvais anglais. « Et vous êtes venu faire la paix au Liban ?» Il ne se moquait pas, il voulait m'entendre. J'ai souri. « Je veux juste donner à des adversaires une chance de se parler. »« À des ennemis, si vous voulez. »« Se parler en récitant un texte qui n'est pas d'eux, c'est ça ?» En travaillant ensemble autour d'un projet commun, il a rectifié la bretelle de son fusil d'assaut. C'est une forme de répit, alors. J'aimais bien le mot. J'ai dit oui. Le théâtre était un répit. Après le thé, Iman m'a donné une lampe de poche. Nous avons traversé les ruelles dans sa clarté. Je dérobais son ombre gracieuse. Elle avait voulu que je vienne ce soir-là pour entendre « Identité », écrit par Darwish en 1964. Nous parlerions d'Antigone une autre fois. Elle désirait me voir avant que de m'écouter. Dans la nuit, je frissonnais. Deux brasiers avaient été allumés de chaque côté de la scène, dessinés par les sacs à dos des écoliers. Parfois, un tir lointain abîmait le texte. J'étais le seul à sursauter. Les enfants jouaient, Iman traduisait. J'observais les visages à la lumière du feu. Les femmes, les hommes, les anciens à barbe blanche. 3 combattants étaient adossés au mur, leurs fusils posés sur le sol. Plus tôt, accompagné de Yassine, un responsable palestinien est venu me saluer. Main dans la mienne, il m'a dit que cette pièce de théâtre était une très belle idée. J'ai été soulagé. Un homme, au moins, savait ce que je venais faire dans ce pays. Ce soir-là, je n'étais pas au Liban, pas à Beyrouth, pas même à Chatila. J'étais en terre d'exil, une parcelle sans air entre deux murs gris, un ciel bas, strié de fils électriques. J'ai ouvert le carnet de Sam, j'ai tout noté pour lui. Quelques mots sur la majesté des visages, sur la dureté de certains regards, sur les cheveux d'Iman, ses mains pâles, sa beauté stupéfiante. À son premier sourire, j'ai su qu'elle serait Antigone. Inscrit en tête du premier feuillet que je n'ai pas... La fillette ne se souvenait plus. Pas de haine pour les hommes, a soufflé Iman en arabe. La gamine jetait des sourires désolés à l'assistance. Elle cherchait sa mère. Iman, des mots à son secours. Pas de haine pour les hommes, a répété Iman. Pas de haine pour... a bredouillé la petite. L'institutrice s'est levée. Son élève lui a tendu les bras, 8 ans peut-être, prête à se réfugier. Iman s'est assise avec elle dans les gravats. « Que je n'assaille personne », a récité la palestinienne. Elle a glissé 2 mots à l'oreille de l'enfant. « Mais si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur », a répété l'écolière. Iman s'est levé, jetant les bras au ciel. Tous les enfants se sont dressés, poings sur les hanches. « Gare, gare !» Puis ils se sont regroupés autour de leur maîtresse. « Gare à ma fureur !» a hurlé Antigone avant de saluer. Je me suis levé au milieu des applaudissements et des you-you des femmes. Les enfants piochaient du riz dans leurs poches et nous le jetaient. Des fenêtres en face de quelques terrasses, des ombres saluaient cette liesse et puis tout le monde s'est séparé brusquement. « Problème de sécurité », m'a expliqué Iman. Les fédaïnes vidaient la place à grands gestes. Yassine frappait dans ses mains. Un peuple redevenu famille se dispersait à travers le camp. Marwan était de l'autre côté de la rue, dans sa voiture, phare éteint. Peut-on se voir demain ? Iman a hoché la tête. Je crois que oui, m'a-t-elle répondu. J'étais cœur battant. C'était au rendez-vous de travail. J'avais l'impression de lui voler un baiser. Nous nous retrouverions hors du camp dans un café du centre-ville. Elle ne voulait ni du regard de son frère, ni du rire de ses sœurs. Je lui tendis une main tremblante. Des hommes passaient. Elle s'est détournée. J'ai inspiré tout l'air autour de moi. J'ai fermé les yeux. Eurydice ne mourra pas. Traduit. J'ai lancé ça comme ça, surpris par ma phrase. Nabil m'a regardé. Je lui dis ça ? Eurydice ne mourra pas, dis-lui. Et Antigone s'en sort aussi, a plaisanté Charbel. J'ai eu un geste brusque. Chaque chose en son temps. Ma tante veut votre parole, a lâché le chiite. Elle l'a ? Non, il faut le lui dire en face. La vieille femme me regardait avec crainte. Je me suis incliné, ne la quittant pas des yeux. Elle a relevé son voile. « Madame, je vous donne ma parole d'honneur qu'Eurydice, femme de Créon et mère d'Aimon, ne mettra pas fin à ses jours. » Pendant que son neveu traduisait, elle observait mes lèvres sans comprendre mes mots. Lorsque je me suis incliné une seconde fois, elle a hoché la tête et s'est assise de nouveau sur sa chaise, aidée par ses neveux. Je n'osais affronter le regard amusé d'Iman, mais je le sentais sur moi. J'ai consulté ma feuille de route comme un égaré lit une carte à l'envers. Je venais de trahir Anouilh pour ne pas déplaire à une fervente Dali, cousin et gendre du prophète. Il ne fallait pas que le silence s'installe. J'ai appelé Iman à l'aide, mais c'est Charbel qui est venue à mon secours. « Je m'appelle Créon, je suis le roi de Thèbes, j'ai 2 neveux, Éthéocle et Polynice, morts pour rien dans une bataille absurde. » Les 2 étaient des voyous, des damnés qui avaient essayé tour à tour d'assassiner Œdipe, leur père. Pour préserver l'honneur de ma famille, j'ai menti à mon peuple. J'ai fait de Polynice un vaurien et d'Éthéocle un bon garçon. Au second, j'ai organisé des funérailles nationales. Au premier, j'ai refusé une sépulture menaçant de mort quiconque l'enterrerait. J'ai applaudi Charbel. J'étais touché par le frère de Joseph Boutros. Il avait lu la pièce, il en avait compris les enjeux. Et surtout, il laissait à Iman le soin de se mettre en scène à son tour. Je m'appelle Iman, je suis palestinienne. Mes ancêtres vivaient à Jaffa. Je vais jouer le rôle d'Antigone, celle qui dit non, qui refuse les ordres, les consignes, les conseils, celle qui ne met pas sa couverture comme les autres, qui ne répond pas aux questions comme les autres, qui veut que son frère soit enterré dans sa terre et non laissé aux chiens, qui va gratter le sol avec ses ongles pour recouvrir son corps selon les rites, qui va dire au roi, à son oncle, à Créon, cet homme faible, qu'elle n'a pas peur de lui, qui va refuser qu'on cache cette histoire au peuple de Thèbes, qui va hurler que c'est elle, Antigone, Iman, la palestinienne, qui a voulu enterrer son frère dans sa terre natale, elle qui va refuser le bonheur avec Aimon, la vie avec tous les autres, et qui va choisir la mort pour ne pas se trahir. Rien, cette fois. Pas un bruit dans la pièce blessée. Iman est resté debout, tête haute, sourcils froncés, bouche entr'ouverte. Elle grelottait. C'est alors que Charbel s'est avancé vers elle. Il a ramassé la couverture restée à terre et lui a couvert les épaules de ce cadeau dont elle ne voulait pas. « Je ne suis pas phalangiste », lui a répété le jeune chrétien. Elle a serré le plaid contre elle. Elle me souriait. Alors je l'ai applaudi. Je me suis levé de la dernière marche et j'ai félicité mes acteurs, tous, les uns après les autres. J'ai acclamé leur témérité. Aucun guerrier caché derrière la crosse de son fusil, nulle part dans la ville, n'aurait jamais leur courage. Je les ai aimés comme si le rideau venait brusquement de chuter, cachant la salle qui nous faisait triomphe. Deux fenêtres étaient ouvertes. Il était 15h11. Un hurlement terrible. La stupeur. Tous se sont figés, avant de se jeter brusquement sous la table sans un mot. Ils avaient retrouvé les gestes de l'abri. J'étais le seul assis sur ma chaise à regarder le plafond. J'ai failli me lever. Nabil m'a tiré par le pantalon en hurlant. Un deuxième avion, un troisième. Je suis tombé de ma chaise au moment où les vitres explosaient. « Les Juifs !» a hurlé Nakad. Nabil et Hussein ont renversé la table pour en faire un bouclier. Madeleine s'est cognée, elle saignait du nez. « Il faut sortir, je veux sortir d'ici !» Charbel l'a ceinturée, accroupie à côté d'elle. « Calme-toi, on ne sait pas ce qui se passe, on reste ensemble !» Hussein entassait les chaises. « Ne regarde pas, ferme les yeux !» m'a crié Iman en français. Les autres avaient renoncé à ma langue. Ils hurlaient en arabe. J'étais allongé sur le sol, les mains sur la tête. Yevkine était blottie contre moi, elle sanglotait, les cheveux 10 semaines tombés sur son visage de poupée. Madeleine pleurait aussi, tenant son nez à deux mains. Dos tourné à la fenêtre, main offerte au ciel, Nabil priait à genoux. Beyrouth était attaquée. Je répétais cette phrase dans ma tête pour en saisir le sens. Des avions se jetaient sur la ville. Ils bombardaient la capitale du Liban. C'était incroyable, dégueulasse et immense. J'étais en guerre. Cette fois, vraiment. J'avais fermé les yeux, je tremblais. Ni la peur, ni la surprise, ni la rage, ni la haine de rien, juste le choc terrible, répété, le fracas immense, la violence brute, pure, l'acier en tous sens, le feu, la fumée, les sirènes réveillées les unes après les autres, les klaxons des voitures folles, les hurlements de la rue, les explosions encore, 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 mon âme était entré en collision avec le béton déchiré. Ma peau, mes os, ma vie violemment soudée à la ville, personne ne l'avait remarqué. Au milieu de leurs cris, je souriais. Je pensais à Joseph Boutros et son fusil d'enfant, son tir dans la nuit, couinement de souris grise. Je pensais aux snipers du ring, de la tour Risk, à tous les tireurs de la ville jetés contre les murs à cet instant. Je pensais au claquement parisien de nos grenades lacrymogènes, aux pétards du 14 juillet, à l'orage, à la foudre, à tous ces bruits trop humains. Je mâchais mes joues. J'ouvrais la bouche en grand. Je la claquais comme on déchire. Mon ventre était remonté. Il était blotti dans ma gorge. Ma jambe lançait des cris de rage dedans. Je n'avais jamais entendu cela, jamais. La guerre, c'était ça. Avant le cri des hommes, le sang versé, les tombes, avant les larmes infinies qui suintent des villes, les maisons détruites, les hordes apeurées, la guerre était un vacarme à briser les crânes, à écraser les yeux, à serrer les gorges jusqu'à ce que l'air renonce. Une joie féroce me labourait. J'ai eu honte. Je n'avais pas peur. J'ai eu honte. J'étais en enfer. J'étais bien. Terriblement bien. J'ai eu honte. Je n'échangerai jamais cet effroi pour le silence d'avant. J'étais tragique, grisé de poudre, de froid, transi de douleur. Mes oreilles saignaient certainement. Nimer a vomi dans son coin, sans un mot. Personne n'est allé à son secours, personne n'est venu au mien. Une bombe a frappé notre maison, ou celle d'à côté. Un pan de mur est tombé des étages, fracassant notre balcon. Nabil s'est levé dans la poussière noire. Il a donné un ordre bref, puis il a ouvert la porte sur le couloir, tenant une chaise dans son dos. « On sort, on y va !» a hurlé le chiite. J'ai pris mon sac ouvert, j'ai couru comme les autres, puis je me suis arrêté. Antigone était éparpillée sur le sol. Les livres partout, pliés. Froissés, jetés comme ça dans le plâtre et les gravats, avec les notes de lecture, les crayons, les sacs. J'ai ramassé l'exemplaire d'Iman. Il était recouvert de papier bleu, décoré d'une fleur hérissée d'épines. L'immeuble fut touché une deuxième fois. « Ils bombardent le stade !» a crié Nakad. Lorsque je suis sorti, nous n'étions plus que trois, Iman, Charbel et moi. Les autres avaient fui vers Mare Elias. J'ai vu Nabil de dos avec sa chaise en carapace. Ismène et sa nourrice couraient vers l'hôpital général. Nimer crachait vers le ciel du haut d'un promontoire en hurlant aux assassins. « Achatila !» a crié Iman. « Tu veux crever ?» Charbel a tendu le doigt vers les colonnes de fumée noire qui montaient du camp. Tout brûlait. Deux avions sont passés au-dessus de nous, piquant vers la cité sportive. Marwan m'avait dit qu'elle servait de dépôt de munitions à l'OLP et aussi de camp d'entraînement. Elle brûlait. Le béton brûlait. Sabra, Shatila, la banlieue sud était dévorée. Les Palestiniens répliquaient, les Nassériens, les communistes. Leurs lance-roquettes claquaient partout. Ils arrosaient le ciel de rage avec leurs carabines à bouchons. Juste derrière nous, du côté de Burj el Barajne, le souffle en rafale des départs de missiles. Une camionnette à plateforme est passée en hurlant. À l'arrière, coincé contre la rambarde, un combattant fusillait les nuages à la mitrailleuse lourde. Partout, des voitures désertées au milieu des rues, phares affolés, portières restées ouvertes. Charbel est parti en courant vers l'UNESCO. Il s'est arrêté. Il est revenu vers nous. D'autres avions, il s'est jeté dans un angle du mur. Iman m'a entraîné sous un porche. Les Israéliens tapaient ailleurs, plus loin. Le chrétien s'est jeté contre moi, main tendue. « Adieu, Georges !» Je l'ai regardé. « Au revoir, tu veux dire ?» Il a souri, tristement. Iman lui a offert la main à son tour. « Adieu, Charbel !» Elle a hésité un instant. Lui aussi. Ils se sont regardés, se sont avancés l'un vers l'autre. Ils auraient pu s'étreindre, je crois, s'ils avaient été seuls. Mais j'étais le regard de trop. Je n'avais jamais remarqué quel beau couple ils faisaient. Ce n'était plus Antigone et Créon, mais une fille, un garçon, deux gamins de notre temps. Ils ne se sont pas embrassés. Ils auraient pu... Ils auraient dû. Longtemps, j'en ai été malheureux pour elle, pour lui et pour moi. « Bonne chance, petite sœur, » lui a dit le chrétien avant de s'échapper. « Que Dieu te protège !» a crié la Palestinienne alors qu'il traversait la rue. L'autre a levé la main, bouffé par la fumée grise, et puis nous sommes restés comme ça, Antigone, sans son roi. Et le cœur sans son texte. Debout contre un mur, à observer le ciel déchiré par les leurres aveuglants, Marwan ne viendrait pas. Je l'imaginais coincé dans le désordre du centre-ville, hurlant le nom de Nakad en brisant son klaxon. Une mère courait sur le trottoir d'en face, son enfant dans les bras, le drap qui l'enveloppait pendait comme un linceul. Depuis un porche, des hommes l'ont appelée. Elle s'y est engouffrée. J'ai pensé à Aurore, écoutant la radio, à sa peau malade, écorchée d'inquiétude. J'ai vu Louise, son sourire, sa main en grand bonjour, ses cheveux de princesse. Je l'ai vue au milieu de cette rue, arrachée à la paix, au chocolat chaud, au ruban de sa robe. Une jeune femme venait à notre rencontre. J'ai vu le sang couler le long de son bras, son manteau arraché, un côté de son visage passé au noir de suie, les yeux ouverts comme morts, les cheveux en paquets de poussière. Elle hurlait en arabe, s'arrêtait, reprenait sa course. « L'hôpital de l'OLP a été touché, il y a des victimes », a traduit Iman. « L'hôpital de l'OLP, l'hôpital Gaza, à Sabra. » Elle a essayé d'arrêter la porteuse de nouvelles, mais l'autre s'est dégagée, s'est sauvée comme une folle en appelant au secours. Je rentre à Chatila, on va avoir besoin de moi. Iman est partie en courant, elle m'a laissé comme ça avec mon cartable ouvert à bout de bras. Attends, je t'accompagne. Elle a hurlé sans se retourner. Tu n'as rien à faire là-bas. Ici non plus. Je l'ai suivie. Elle a ralenti sa course. Nous avons marché à travers les gravats jusqu'au camp. Je n'avais pas peur, j'avançais en somnambule dans les rues affolées. Prisonnier de la fumée, du vacarme, de la fébrilité, nous croisions des blessés, des égarés, des cohortes plaintives. Une femme pleurait sur son mort, à genoux près de lui. Un marchand ambulant était étendu sous sa charrette, ses légumes répandus dans l'eau des canalisations éventrées. Des façades glissaient, arrachées aux immeubles, entraînant des rideaux colorés, des draps de lit, la vie d'avant. Iman me regardait de côté. Elle était inquiète. Elle surveillait le ciel et revenait sans cesse à mon visage. Elle s'est brusquement arrêtée. « Ça ne va pas, Georges. » Elle a posé sa main sur ma poitrine pour m'immobiliser.
« Pourquoi tu me demandes ça ?»«
Parce que tu ris. » Et puis, l'air s'est déchiré. Hurlement de métal. Collision avec le feu, un flash blanc, douloureux, immense. J'ai été aspiré. Un trou a voulu me prendre. Mon cœur a été happé par le souffle. Il a brisé mes côtes comme la cage d'un oiseau. Il est sorti de ma poitrine. Il a roulé dans la poussière. J'ai lâché les jerrycans. J'ai caché mes yeux à pleine main pour qu'ils ne soient pas arrachés. J'ai fermé la bouche au lieu de l'ouvrir. Mes poumons se sont enflammés, mon visage, mes oreilles, mes paumes étaient soudées à mes joues. J'ai été projeté en arrière. Le sol avait glissé. Mes jambes. Je battais des bras pour échapper au gouffre. Je sentais le cochon grillé, la poule du dimanche que maman plumait au-dessus du feu. Je grésillais. Mes yeux avaient fondu. La lumière explosait derrière mes paupières. Elle clignotait en perforant mon front, mes tempes, ma nuque. Mes narines s'étaient refermées, je ne respirais plus. Je suis tombé violemment sur le dos, sans protéger ma nuque, mes talons, mes coudes. Ma jambe s'est déchirée, ma hanche. J'ai vomi mes intestins. Un serpent à n'en plus finir qui a rampé jusqu'au trou d'eau formé par la crevasse. J'ai été soulevé, porté comme un triomphe. Des voix tout autour, d'hommes, de femmes, des ordres, bref. J'ai été jeté sur une épaule, puis dans un dos. Couché dans un brancard, porté les pieds en l'air, la tête renversée, les mains soudées à mon visage. Je brûlais, j'étais en feu. Vraiment, comme une souche jetée dans l'âtre. J'ai voulu ouvrir les yeux, j'ai hurlé. Quelqu'un avait lancé du sable sur le brasier, lacéré les flammes au rasoir. J'ai reconnu les bruits de l'hôpital, les pas traînés, les gémissements, les cris des uns et des autres. L'odeur, le désinfectant, la sueur, la civière a été posée sur le sol. Tête cognée, Georges. Georges, mon Dieu. Iman, rien ne pouvait plus m'arriver. J'ai senti sa main sur la mienne. Elle l'a détaché doucement de ma joue. « Mon Dieu !» Une voix arabe, un homme. « On va te laver les yeux. Tu entends, Georges? On va te laver les yeux. »
L'homme a enlevé l'autre main de mon visage. Il était plus brutal. Iman et lui m'ont maintenu. Quelqu'un a inondé mes paupières closes pendant de longues minutes. Douleur immense. Mes yeux de sable, d'épingle, de verre pilé. Goût marin sur les lèvres. Des mouches tournaient. J'allais perdre la vie. Tout va bien, c'est un sérum salé, a murmuré Iman. On m'a redressé, ils enlevaient mes vêtements. Tout est imprégné. Tout est imprégné, il faut te débarrasser de ça. Je serrai la main d'Iman, je brisai la main d'Antigone. Comment vais-je faire pour pleurer? Je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Comment pleure-t-on sans ses yeux? Attention, le médecin va ouvrir tes paupières. Une autre voix d'homme agacé, un geste brusque, un ordre sec. Non, il ne les ouvre pas. Il faut continuer à laver. On va t'emmener en salle d'opération. C'est moche. C'est moche. Mes premiers mots d'aveugle. Silence, d'Iman. S'il te plaît, dis-moi. Iman a posé des questions en arabe. L'homme lui a répondu. Elle traduisait un mot sur 10. Sa main écrasée dans la mienne. Tu es brûlé. Tu as une lacération des paupières. On ne sait pas encore si tu as des éclats dans la cornée, si tu as des lésions. Même voix d'homme. Iman a traduit. Essaye d'ouvrir les yeux. Impossible. Nausée. Mal de tête. Deux doigts ont forcé. Douleur intense. C'est bien. Noir intégral. Tourne les yeux, à droite, à gauche. Le sérum doit entrer partout. Voix arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Iman, il cherche, il regarde si la cornée a été brûlée, s'il y a une perforation de l'œil, une fracture de l'orbite ou une rupture du globe. Il ne trouve rien, il cherche. La voix, la traduction. Tu es vacciné contre le tétanos? Qu'est-ce que j'en savais? Oui, non, peut-être, contre la grippe aussi. J'avais perdu mes yeux, j'étais dans un hôpital bombardé, à une vie de chez moi, couché par terre, entouré d'orphelins, ma tête déchirée par la douleur, je ne verrais plus jamais rien, plus jamais. Mes yeux avaient été mangés, ils coulaient sur mes joues comme des œufs cassés, le blanc, le jaune, la coquille qui griffait. Calme-toi, Georges. La voix, la traduction. Tu as des œdèmes aux paupières, mais pas de déformation de la pupille. J'ai lâché sa main. « Je comprends rien, Iman. Arrête. Tu me demandes de traduire, je traduis. » J'ai essayé de me lever sur les coudes, je suis retombé. J'étais torse nu, en caleçon, sans chaussures ni chaussettes. J'avais honte de mon corps offert. Quelqu'un a posé une couverture sur mes jambes. « Est-ce que je vais perdre mes yeux ?» Demande-lui juste ça. La voix d'Iman, sa question... hésitante, puis la réponse de l'homme. On a toujours deux yeux de trop. Et puis, j'ai vu le premier enfant. Je le redoutais derrière chaque porte. Je le craignais après chaque cri. Il était là, un bébé, torse nu, en couche déchirée. Un écorché, une chair écrasée vive contre un mur de parpaing. Je me suis arrêté, j'étais sec, des yeux, du cœur. L'air était épais, je respirais par saccades. Inspirer, c'était bouffer de la mort. J'ai voulu prendre l'enfant, le porter, le brandir dans le camp, le montrer à Beyrouth, le ramener à Paris, le hurler à la terre entière. Je me suis penché sur lui, un homme a crié. Il est arrivé en courant. Il m'a montré la grenade découpillée, cachée sous une poutre à côté du cadavre. Une corde reliait le pied de la victime au madrier de bois. Bouger l'un, c'était déplacer l'autre et déclencher l'explosion. Ils ont piégé les corps, a expliqué cet homme. Maintenant, les anges guidaient mes pas. Les anges guidaient mes pas. Une fillette en chemise rouge, front ouvert, jambes écartées. Une autre plus loin dans l'angle en robe écossaise, visage contre le mur et dos lacéré. Un garçon brisé sur le dos avec Mickey sur son t-shirt bleu. Quatre frères entassés sur le trottoir et brûlés, chairs et vêtements attachés comme broyés et refondus ensemble. Je ne résistais plus. Je me suis laissé faire. Je passais de main en main, de maison en maison, dans les cris, les pleurs, tous ces yeux écorchés qui recherchaient les miens. Une femme m'a conduit à un berceau sanglant, une nacelle en rotin, tapissée de draps gris et blancs. L'enfant avait été égorgé. Il dormait sur le côté, la tête décollée, les mains dans le dos, une jambe repliée à l'envers et le genou brisé. Je voulais lui offrir des larmes. J'ai cherché tout au fond. J'ai fermé les yeux pour les appeler à l'aide. Elle ne venait pas. Elle baignait mon ventre, mon cœur, mon âme. Elle refusait mes joues. Je suis ressorti comme ça, le visage sans rien. Prends devant toi, tout droit. Après le marchand de pneus, tourne à gauche. C'est là, m'avait dit Marwan. J'ai reconnu le terrain vague, la grande fresque qui colorait le mur de l'école, le cabinet de Pierre, le dentiste. Je me suis arrêté au milieu de la rue. La porte d'Iman était ouverte. Des femmes et des hommes se croisaient, comme autant d'égarés. Un photographe de presse travaillait. Il a levé les yeux vers moi. Il pleurait. Je suis resté comme ça au milieu de tout, le regard contre la porte. J'ai attendu que quelqu'un entre, sorte, qu'une main apparaisse à travers les barreaux de la fenêtre. Et puis je me suis mis en marche. J'ai traversé la rue, pas à pas, le ventre hurlant de peur. Je n'étais jamais entré dans la maison d'Iman. La porte donnait sur la cuisine, une pièce minuscule, encombrée jusqu'au mur par la table et les chaises. Elles étaient renversées. La table était dressée pour le repas du soir. Cette fois, je n'ai pas appelé, je n'ai pas crié. J'ai regardé la porte menant à l'autre pièce. Le père était là, assis par terre, contre le chambranle, penché sur le côté, les yeux ouverts, le keffieh blanc taché de sombre. Iman m'avait parlé de sa petite sœur, de ses frères. Ils étaient trois, soudés les uns aux autres, entassés au milieu du couloir. La lumière du matin entrait par la fenêtre, elle fouillait chaque flaque de sang comme renifle un chien. Je me suis cogné à la table, aux chaises tombées. Iman était dans sa chambre. Elle reposait dans le silence, couchée en travers de son lit. Sa tête pendait d'un côté, ses jambes de l'autre. Ses bourreaux lui avaient attaché les mains dans le dos avec du fil de fer. Une partie de son visage avait été arrachée. Sa joue, son front, sa tempe, une bouillie bourdonnante de mouche. Un bâillon était enfoncé dans sa bouche. Son cou était tranché. Son chemisier ouvert, déchiré aux manches. Ses seins avaient été tailladés. Une tache verte dévorait son abdomen. Sa robe à carreaux noirs et blancs était relevée. Elle était écartelée, son ventre forcé. Elle avait les cuisses en sang. Les chevilles, elle s'était battue. Elle tenait une touffe de cheveux dans son poing. Je ne respirais plus. Mon cœur avait cessé. Je l'ai détachée, elle était raide, glaciale, morte le jour d'avant. Le fil de fer était incrusté dans sa peau. Je l'ai couchée sur le lit, un oreiller glissé sous sa tête. J'ai baissé le bas de sa jupe, fermé le seul bouton de sa robe. Sur la table, il y avait son foulard bleu. Je l'ai ouvert en grand et posé sur son visage, n'offrant plus que ses cheveux roux. J'ai failli prier mon Dieu. Quelques phrases d'enfance. Et puis, j'ai renoncé. Au-dessus de son lit, Iman avait encadré la reproduction d'un vieux billet de banque palestinien. C'était une horloge. Une bourse dorée pendait sur le côté, accrochée à une clé rouillée, longue comme la main. J'ai reconnu la bourse, la terre palestinienne que Sam avait offerte, et aussi la clé de 1948, celle qui fermait la maison familiale de Jaffa, emportée en exil par ses grands-parents. « C'est toi qui tourneras la clé dans la serrure, mon ami. » J'ai revu Yassine, le combattant palestinien, sa promesse de retour. Il s'était embarqué avec des frères de défaite, partis pour Tunis dans le village d'Arafat, avec leurs armes et leurs espoirs, laissant leur famille sans défense. J'ai décroché la clé. Elle était lourde. une tige pleine, un anneau ouvragé. J'ai ouvert la bourse. J'ai séparé le terreau en deux parts égales, une pour Imane, l'autre pour Yacine. J'ai versé la moitié dans ma paume de main, j'ai saupoudré le corps d'Imane. Je ne pleurais pas, je ne tremblais plus. J'étais Antigone penchée sur Polynice. J'ai répandu la terre sacrée sur son martyre. Elle était douce, cette terre, à la fois sèche et grasse, piquetée d'éclats brillants comme le diamant. J'en ai parsemé son foulard, son torse, ses jambes déchirées, ses paumes de main, ses pieds. Je l'ai éparpillé, frotté entre mes doigts. Je me suis incliné devant la suppliciée. J'ai pris la clé, le reste de Palestine dans sa bourse dorée. J'ai enjambé les frères, j'ai contourné le père, je suis sorti dans la rue. Et puis je n'ai pu regarder. J'ai marché au milieu de la route, marché en aveugle vers l'air libre, suivi par les pleurs, les cris, le linge séchant pour rien au soleil de septembre.
Merci beaucoup.
Voilà.
Que rajouter après ça?
Bah, si, moi il faut que je parle parce que... J'ai beaucoup pleuré quand je suis entré dans le camp de Sabra et Shatila. En fait, je pleurais à l'intérieur. Et j'ai beaucoup pleuré en écrivant Sabra et Shatila. Et j'ai beaucoup pleuré en écoutant Féodor me raconter Sabra et Shatila. Et c'est terrible parce que lorsqu'on écrit, la seule voix qui existe, c'est la sienne.
Bien sûr.
C'est-à-dire que moi, j'écris. Et je vois cette jeune femme que j'ai appelée Imane, parce qu'un journaliste est obligé. Un journaliste ne peut que décrire une femme morte, martyrisée dans un camp. Il n'a pas le choix, il la décrit. Je l'ai décrite pour Libération ce jour-là. Je l'ai décrite sa position, son martyr, mais. Cette femme n'avait pas de nom. C'est moi, auteur ensuite, qui l'ai appelé Imane. C'est moi qui l'ai fait se relever. C'est moi qui l'ai fait raconter, réciter les poèmes de Mahmoud Darwish. Mais cette femme-là, j'étais totalement impuissant face à elle. Et c'est aussi pour elle que ce livre a été écrit. Parce qu'elle est devenue actrice. Parce qu'elle est devenue belle. Parce qu'elle est devenue vivante. Et quand je suis ressorti de Sabra et Shatila, comme je suis ressorti de 20 années de guerre, je me suis aperçu qu'en fait, mes yeux étaient secs, comme si j'avais trop pleuré. Jamais sur moi. Parce que je n'avais pas le droit. Et j'ai retrouvé mes larmes après Shatila, en écrivant. Mais ces larmes-là, ce camp-là, cette femme-là que j'ai décrite, ces hommes, ces vieillards, ces femmes et ces enfants morts, personne ne m'en a parlé à moi. Jamais. Eux, ils étaient morts. Il n'y avait pas de son. Il y avait les mouches. Il y avait le silence. Personne ne me les a jamais décrits. Jamais. Et, excusez-moi, et je n'ai fait que les écrire. Et un jour, il y a une voix qui me les a racontées. Mais c'est aussi violent, c'est aussi fort et c'est aussi beau. Et je suis désolé d'être dans cet état-là, mais on ne sort pas indemne de la guerre, on ne sort pas indemne de ce camp, on ne sort pas indemne de toutes les morts, surtout celles des enfants. Et je pense qu'on ne sort pas indemne de ce livre-là non plus, mais quand Féodor Atkine me le raconte, je suis un enfant. Je ne suis plus un adulte. Je ne suis plus un homme qui revient de guerre. Je suis un enfant. Et cet enfant-là, ben, il le remercie.
Merci à vous. C'était l'une de mes questions. Vous m'avez précédé. Mais merci, non, merci, c'était très très beau, très touchant.
Je suis désolé, mais on ne peut pas jouer avec ça, c'est juste, il faut que ça sorte, et puis voilà, c'est sorti, je suis heureux que ça soit sorti en votre présence, ou en ta présence, et je suis... c'était terrible de pleurer seul en l'écoutant, et je préfère le dire là, parce que c'est... Voilà, moi, je pense que le courage, ça se partage, et je trouve que la faiblesse aussi, et la peur aussi, et la tristesse aussi, et le désarroi aussi. Et je trouve que ce livre, il n'est pas lu par Féodore, il l'est vécu. Et moi, quand j'ai eu ce très beau prix, qui est le prix Goncourt des lycéens, qui m'a bouleversé, il y a un gamin, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, mais à la guerre, on est tout seul. Quand je suis rentré à Sabra et Chatila, nous étions trois journalistes. François Luizet, du Figaro, Samy Quette, de l'agence France Presse, et moi, et nous sommes entrés les tout premiers. Avant les secours, avant tout le monde, nous avons découvert. Et en fait, nous étions seuls, chacun des trois, nous étions absolument seuls. Et ce lycéen, à la remise du prix, il m'a dit cette phrase que je partage maintenant avec Féodore, puis avec ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont l'entendre ou ceux qui l'ont entendu. Ce lycéen m'a dit, vous savez, monsieur, à Chatila, j'étais là, me dit-il, vous n'étiez pas seul, on était là, nous, les lycéens. Et voilà, donc les lycéens étaient là, Féodore Atkine était là, vous étiez là, et c'est comme ça que l'on s'en sort. C'est parce qu'on a partagé une brutalité, un désarroi, une violence, une saloperie absolue qui est en train de cogner à nos portes. Mais en tout cas, c'est parce que vous êtes là que l'on n'est pas seul. Et la résistance, c'est quelque chose qu'on partage. Autrement, lorsqu'on est seul, on est mort. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.